1, 2, 1, 2.
Ah.
T'as t'es même un peu fort. Alors ça, c'est les invités de qualité.
Hey, je suis Alix et voici Train de nuit.
Salut Abel.
Salut Alix.
Eh ben écoute, bienvenue dans Train de nuit et merci de du coup m'accueillir parce qu'on enregistre chez toi.
Bah je t'en prie.
Et
avec plaisir.
Ça me fait beaucoup de bien parce que du coup on a parlé un bon moment là avant d'enregistrer.
Ouais.
Et je sais que je suis arrivé. Donc on est à Paris, moi ça me fatigue pas mal en général Paris, je suis arrivé en me disant j'ai bien envie d'enregistrer mais j'ai pas trop envie d'endosser un rôle en fait, de, tu vois, d'animer le podcast et tout, et ça m'a vachement ressourcé en fait ce moment qu'on a passé ensemble.
Ouais bah ouais c'était chouette, hein. Ouais. Moi non plus je me disais t'as deux buts en blanc, on va faire quoi, on va... tu vas poser le micro, on va dire bon alors vas-y.
D'ailleurs je pense que c'est ça... Dès le début que j'ai fait ce podcast, c'était un peu un fantasme espiègle de créer un podcast en mode un peu prank, où tu démarres et tu dis bah vas-y, c'est à toi. Essaye de faire ça avec chaque personne et voir s'il y a quelque chose qui émerge de la collection d'épisodes ou pas.
Vas-y, sois intéressant, sois brillant.
Raconte-moi ta vie, quoi.
Épate-nous. Ouais, ouais.
Et tu sais, il n'y a qu'une question, c'est vraiment ça, quoi. Vous avez carte blanche.
Bah ouais, finalement, parfois c'est comme ça. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. C'est s'y mettre 5 minutes, se forcer un peu au début, forcer le début, et puis après, il y a peut-être quelque chose qui vient ou pas.
Bah ouais, ça peut être marrant à voir.
Ouais.
Après, c'est au prix de pas brûler, mais en tout cas, clairement, ne pas faire avec la complicité de chacun des invités.
Oui, c'est sûr. Mais c'est commencer dans une certaine forme de stress, quoi, pour la personne, potentiellement.
Ouais. Ouais. Eh ben écoute, je te propose de t'offrir la carte postale rituelle.
Ah.
Que j'ai choisie pour toi. Qui est dans mon sac. Et qui n'est pas une carte postale, mais qui est un carnet.
Oh.
Mais avec une couverture illustrée. Je te laisse le découvrir et le décrire pour le micro.
C'est un beau carnet en tout cas.
Il est fabriqué, imprimé à Paris.
Ok.
Et la photo de l'illustration sera en description de l'épisode.
D'accord. Bah ouais, c'est un beau carnet. Je sais pas si on peut citer des marques.
Je pense que rien nous retient à ce niveau-là.
De papier tigre, avec un joli petit tigre derrière. Et puis la couverture est comme un peu des vagues bleues, noires, blanches, grises. Avec un peu une texture un peu comme l'aérographe sur Paint.
Ouais.
On parlait
boucheté,
de...
Ouais.
On parlait de quand j'étais sur l'ordi tout à l'heure, quand j'étais gamin, j'ai pas mal manié l'aérographe sur Paint, donc ça me rappelle ça. Ouais, c'est un très beau carnet, effectivement. Ah oui, et puis il y a différents types de carreaux. Il y a des carreaux et puis il y a des lignes. Où il y a un seul carreau.
Ah, pour différents types d'idées, quoi.
Ouais. Bah merci beaucoup. Je pourrais noter mon nom. Ce beau carnet appartient à... Trop chouette. Bah merci beaucoup.
Mais avec plaisir. Et du coup, à la fois, en fait, chez toi, sur les grandes idées, je perçois des fortes ressemblances avec moi, qui sont assez rares, c'est rare que je me retrouve sur ces points-là. Et à la fois, j'ai l'impression que dans le détail, on est assez différents, mais on se connaît pas si bien que ça, du coup, j'ai un peu plus de mal à le... Et à la fois, du coup, j'avais bien envie de faire l'exercice de trouver une illustration pour toi.
Ouais.
Et je sais pas comment expliquer, j'avais très envie, et à la fois, c'était pas si facile de le cerner. Et je sais pas, c'est un âge, j'en suis assez content.
Bah.
Est-ce que toi, il y a des aspects qui te parlent de cette illustration ?
Bah écoute, franchement, moi, ça, elle me parle beaucoup. Je la trouve... enfin, pour moi, c'est un carnet que j'aurais pu choisir, quoi.
Okay.
En tout cas, c'est une image. J'adore le bleu profond comme ça. Ouais, ça me parle, quoi. Ça me parle. Et puis là, je sais pas. Là, ça m'évoque, bah, comme on parlait tout à l'heure de un peu tout et rien, mais enfin des fluctuations de la vie. Tu vois, je trouve que ça peut en être une illustration, quoi. Comme des vagues un peu de la vie, quoi. Des plis, des replis, des trucs qu'il faut déplier, qui se replient. Je sais pas. Ouais, je la trouve belle, franchement, j'aurais pu le choisir.
Très bien.
Donc bien vu, franchement.
Ouais.
Oui, c'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup. Hein.
Non, pas tant que ça. En fait, j'ai l'impression que c'est... Je la vois comme en deux couches. Il y a vraiment cette illustration et par-dessus ce côté moucheté un peu... presque, je sais pas, tempête de poussière ou parasite ou je sais pas. Et l'illustration de fond me paraît très... stable en fait. Très, tu vois, les couleurs sont assez à la fois assumées, mais à la fois pas non plus criardes ou déconnantes. Mm-hmm. Il y a quelque chose de. C'est une ressource qui est bien. Bien. C'est bon quoi, on l'a quoi.
Non, ouais.
Et à la fois, ce truc de vent peut être un peu. Dernièrement, j'ai beaucoup de. L'image qui me vient beaucoup quand je pense à. Moi, je suis convaincu que j'ai une sorte de forme d'autisme légère. Mm-hmm. Même si j'ai fait aucun test pour aller dans ce sens-là. Mais, et l'image qui me vient souvent quand ce truc-là se manifeste chez moi, c'est comme si mon attention, mon esprit, ou celui de quiconque, quand on évolue dans une pensée, une idée, c'est comme si on était, je ne sais pas, par exemple, on avançait dans une, par exemple un tuyau. Mm-hmm. Et que ce que je qualifierais de ce qui peut appartenir à l'autisme chez moi, en fait, c'est plutôt que d'avoir une surface plutôt lisse, mon esprit, il a quelque chose d'assez crochu et il va souvent s'agripper en fait aux parois et ça va forcer, ça va crisper. Et ça me fait un peu penser à ça, ces trucs mouchetés.
Ok. Comme d'aspérité, quoi.
Ouais. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression dans ce que tu m'as raconté toi depuis, je sais pas, ça fait un an qu'on se connaît un peu moins. Mm-hmm. Que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu frère à ça, des okay. fois. Je sais pas, par exemple, donc on s'est rencontrés dans une retraite de méditation, Vipassana.
Ouais, ouais.
Et donc quand on sortait, t'étais à donf, tu disais c'est trop bien et tout. Mm-hmm. Et en même temps, tu me disais, mais s'il faut, je m'enflamme aujourd'hui et ça va peut-être pas tenir mm-hmm. les effets dans le temps et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait ce double. Ce côté justement très en place de l'illustration que je trouve derrière, où tu disais vraiment les effets que ça m'a apporté, c'est indéniable quoi, ça, je reviendrai pas en arrière là-dessus quoi. Mm-hmm. Et à la fois une sorte de peut-être de difficulté à trouver de la fluidité là-dedans, je sais pas.
Ouais, complètement. Mm-hmm. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que j'aurais pas forcément vu ça dans l'illustration, mais de ce que tu décris Oui, effectivement, d'avancer dans un tuyau, et moi, je peux avoir tendance à même savonner les bords du tuyau pour, ouais. Pour aller plus vite là où, je sais pas où d'ailleurs, mais enfin au bout du tuyau. Et puis aussi, parfois, bah, ouais, rencontrer bah, évidemment des aspérités ou des choses. Mais c'est marrant que tu me rappelles ce que je t'ai dit parce que je m'en souvenais pas. Que
ah ouais que pourtant, je pense vraiment que tu me l'as répété plusieurs fois.
Ouais, ouais. Ouais. Bah, mais parce que je me connais, en fait. Enfin, je me connais. Je commence un peu à me connaître, disons, ouais. Après 34 ans passés sur, dans ma peau, quoi. Je sais que j'ai vraiment ce côté... d'ailleurs, mes amis et mes proches peuvent vraiment le confirmer. J'ai vraiment ce côté un peu de lubie, quoi. Mmh. J'ai des lubies. Et d'ailleurs, là, on est chez moi et je pense que si on regarde un peu ce qu'il y a chez moi, ça témoigne de différentes lubies, quoi, successives ou qui ont perduré ou qui n'ont pas perduré. Et j'ai l'impression que je suis un peu comme un amas de lubies différentes, quoi.
Okay.
Et du coup, effectivement, bah ouais, pour parler de quand on s'est rencontrés, c'était une expérience. C'était la première fois que je faisais ça. Ça a été hyper intense pour moi. J'ai eu l'impression de... comme d'ouvrir les yeux à l'intérieur de moi et de me voir comme je m'étais jamais vu, avec une espèce de clarté que j'ai l'impression d'avoir jamais eu avant, et je pense que je n'ai jamais eu avant. Mais je me connais aussi, et du coup je sais que malgré tout ça, je peux avoir aussi tendance à une lubie en chasse une autre un petit peu. Même si, sur le moment, je me dis, mais jamais j'arrête, c'est impossible, ça y est, maintenant j'ai trouvé mon truc, etc. Et en fait, la vie fait son chemin, fait son travail, ma vie fait son chemin, et le chemin, des fois, il s'en va, quoi. Et j'ai eu ça pour tout un tas de choses. Là, ce qui me fait un peu parler différemment, mais je parle vraiment avec prudence, parce que je suis vraiment passé souvent par là, tu vois, que ce soit pour des sports ou pour des pratiques, tu vois, je sais pas, me mettre le piano, je pourrais t'en citer, mais des tonnes, tu vois. Je pense que c'est assez courant, hein, je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là à commencer des trucs et à jamais les finir, tu vois. Et Oui, c'est marrant. Moi, souvent, c'est quelque chose par lequel je peux être assez surpris de m'entendre rappeler des choses que j'ai dites.
Ok.
Soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire, soit j'ai dit ça, mais quel enfoiré. Ou alors, j'ai dit ça, mais. Et je suis plus du tout dans le même état qu'au moment où je l'ai dit. C'est-à-dire que peut-être je vais être moins enthousiaste, ou peut-être je vais. Et je vais comme. Pas me reconnaître ou être surpris par ce qu'on me dit. Ah ouais, j'ai dit ça. Ça m'arrive assez souvent, pas au point de me dire, j'ai deux personnalités, tu vois, c'est pas ça, mais il y a. Souvent, j'ai oublié, en fait.
Mmh. D'ailleurs, je t'offre un carnet. T'as déjà tenu un carnet ?
Eh ben alors, justement, c'est un point très. C'est un vrai sujet chez moi. J'ai jamais réussi à tenir un carnet de manière vraiment suivie. Mais j'ai eu plein de carnets, quoi. J'en ai encore plein partout chez moi. Et j'ai pu en tenir sur des courts moments, tu vois, des voyages, par exemple.
Ouais.
Mais pas autant que j'aimerais, quoi.
Ok. Moi, je sais que j'en ai tenu que par période et aujourd'hui, ça fait des années que je ne l'ai pas fait et ça ne m'attire pas tant que ça. Mais à chaque fois, j'ai pu mesurer le fait de... justement, dans le fait de relire tes paroles d'il y a 6 mois, de te dire, merde, mais en fait, la graine de ce que je vis aujourd'hui, elle était déjà là. Et si je devais l'exprimer aujourd'hui avec des mots, ça serait les mêmes.
Ouais.
Alors qu'à l'époque, en tout cas, si je devais juger aujourd'hui le moi d'il y a 6 mois, non, mais il n'était pas conscient de ça.
Ouais.
Et pourtant, les mots étaient là, tu vois. Et c'est assez bluffant, quoi. Il y avait cet effet-là, il y avait aussi l'effet d'accélérer beaucoup le... Par exemple, je sais que moi, je me posais 2 petites questions chaque jour dans le carnet, c'était... Enfin, même une seule, c'était mon niveau d'énergie dans la journée ou ce que je pourrais améliorer le lendemain, tu vois. Et par exemple, j'ai un exemple très précis, c'est... Je me rappelle vraiment avoir écrit plusieurs fois si je fais une soirée et que je bois de l'alcool, le lendemain, peu importe le nombre d'heures de sommeil que j'ai eu, j'ai du mal à me lever.
Mmh.
Et je sais que si j'avais pas fait le carnet, j'aurais pu continuer, tu vois, de temps en temps, pendant des semaines ou des mois.
Ouais.
Alors que là, quand c'est la 3e fois que t'es bien con à écrire la même conclusion dans ton carnet, et bah, tu fais quelque chose pour changer ça. Et je trouve que ce podcast m'a aussi fait ça, parce que du coup, j'ai fait une pause de 1 an que j'ai repris récemment, là. Parce que j'avais l'impression de retomber un peu toujours sur les mêmes goûts, les mêmes textures, les mêmes schémas dans les épisodes.
Mmh.
Et j'ai mis longtemps à réaliser que justement c'était un peu cet effet carnet entre guillemets, tu vois, le fait de le vocaliser qui me dérangeait. Mais en fait ça m'a ouvert les yeux sur des schémas et tout que je pouvais avoir dans ma vie. Et clairement, tant que j'avais pas changé ces schémas-là, ça ne m'intéressait pas de revenir vers le podcast. Et en plus, le fait que ce soit public, d'autant plus, tu vois, je me dis, quel intérêt pour moi de publier un truc où moi-même, j'en ai déjà marre de voir que ça commence à tourner en rond, tu vois. Ouais, c'était assez surprenant. Et tu vois, ça m'a pris 1 an, quoi, sentir que j'amorce autre chose.
Je vois très bien. Et c'est vraiment ça qui... Bah, tu vois, je te parlais juste avant, là, de la créativité, et je range ça dans la créativité. Enfin, en tout cas, de produire quelque chose qui sorte de soi, voilà, pour le dire comme ça. C'est ce que je range là quand je parle de créativité. Et ça, c'est quelque chose, je dirais que c'est un peu le cœur, le sujet principal de ma vie, quoi. Le principal nœud de ma vie, quoi. Et le carnet, bah, effectivement, tu vois, c'est marrant que tu m'offres ça parce que c'est un objet qui symbolise tout ça, quoi.
Okay.
C'est-à-dire ne jamais vraiment arriver à s'y mettre. Avoir tout ce qu'il faut pour s'y mettre.
Bah, tu vois, là, t'as vraiment tout ce qu'il faut.
Ah, mais j'en ai déjà. Je vais te dire, hein, franchement, je peux te montrer. Hein, j'ai... si mes potes écoutent ça, ils vont se foutre de ma gueule. Mais je suis connu pour acheter des carnets, pour acheter de la papeterie. J'adore la papeterie, tu vois. Et franchement, j'écris tellement peu que... Enfin, je veux dire... En plus, maintenant, c'est vrai qu'il y a les ordis, les téléphones et tout. Donc, mais j'ai toujours eu, tu vois... j'ai toujours acheté des carnets. Je les ai commencés de manière... très assidu, en bon élève, tu vois, je mettais une petite page de garde, journal intime, machin, et là, je me dis, allez, là, c'est bon, tous les jours, c'est bon, je mets machin et tout, une page, pff, tu parles, ça tenait un jour, deux jours, et après c'était fini, quoi.
C'est quoi ton but derrière, tu cherchais à faire quoi avec le carnet? Ou est-ce qu'il y a eu des événements qui ont démarré un carnet?
Il y a eu plusieurs types de carnets, quoi. Il y a eu le moment, bah, disons, un peu journal intime.
Mais ça, c'est quoi, par exemple? Ça sert à quoi?
À quoi ça me servait, moi?
Ouais.
Bah, ça m'a servi à rien, parce que j'ai jamais réussi à en tenir, mais...
Mais c'était quoi ton fantasme?
Je sais pas, je pense qu'il y a une part aussi de représentation, on a vu un peu des gens faire ça dans les romans, dans les films, etc. On se dit, ah, c'est bien, chez mon cher journal, enfin, tu vois, voilà. J'étais gamin, je te parle de ça, j'étais gamin, hein. Mais il y a des gamins qui en tiennent hyper longtemps, qui n'arrêtent jamais et qui deviennent des adultes et qui continuent. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça.
J'ai l'impression qu'il y a un peu dans ce truc de mon cher journal, une prise d'autonomie de ce qui t'arrive, tes émotions. Tu deviens la personne qui transmet ce qui s'est passé, quoi.
Ouais.
Du coup, il y a une forme de... C'est toi qui es au courant, quoi. C'est toi qui maîtrises ce que t'as ressenti et tout. Peut-être c'est ça quand t'es enfant de...
Ouais. Et puis il y a aussi ce truc, comme tu disais, de relire, c'est-à-dire d'avoir un peu le recul de manière assez immédiate, quoi. Quelques jours après, tu peux relire, tu te dis, mais attends, mais n'importe quoi, c'est pas du tout passé ça, enfin, pourquoi j'ai écrit ça, enfin, tu vois. Et je pense que dans la construction de soi, enfin, en tout cas, ça peut... Et je dis ça, j'en ai jamais tenu, hein, mais c'est l'idée que je m'en fais, quoi. J'aimerais en tenir un pour cette raison-là, justement.
Okay.
Parce qu'il y a quand même des... courte période où j'en ai tenu, et quand je dis tenu, c'est vraiment écrire des fois ce qui m'arrivait dans une journée ou quoi. Et là, quand je le relis avec des années de recul, déjà, je suis hyper heureux de relire ces trucs-là. Moi, j'adore relire des vieux trucs que je retrouve, tu vois, soit que j'écris moi, soit que d'autres gens ont écrit. Ça, c'est une autre question aussi, de tout garder et tout. Donc déjà, pour ça, j'aimerais arriver à tenir un carnet. Donc ça, c'est le côté journal intime. Et puis après, il y a eu la période où je me suis imaginé grand écrivain, tu vois, et je me dis, bon, là, ça va être mon grand œuvre, tu vois, ça va être mon grand roman. Là, c'est même, spoiler alert, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de grand roman, il n'y aura très certainement jamais de grand roman, et voilà. Mais le carnet, en tout cas, a toujours été dans ma poche, j'en ai encore actuellement dans les poches de mes vestes, il y a toujours un petit stylo avec... Il y a des fois des petits trucs écrits. Les seuls que j'ai vraiment réussi à tenir jusqu'au bout, on va dire, c'est des carnets de voyage. Et là, c'était dans une optique... clairement, c'était... J'écrivais pour qu'on me lise plus tard, quoi. Plus tard étant mes potes après, ou tu vois, ou qu'on se remémore ce voyage, ou... La motivation d'écrire juste pour moi a jamais suffi, quoi.
Ok.
Et ça aujourd'hui, je me pose vraiment cette question-là, tu vois, enfin, dans la visée d'écrire un carnet. Si j'écris un journal intime dans le but, comme je disais tout à l'heure, d'avoir du recul sur ce qu'on vit et etc. Bah, du coup, c'est que pour toi que tu peux le faire, en fait. Et il y a eu un peu ces deux types-là. Après, il y a eu d'autres carnets de type, je note les citations de mes profs quand ils disent des conneries, ou je note des phrases que j'aime bien, ou ça aussi, ça durait un temps. Il y en a qui ont duré un peu plus longtemps, mais sinon, quand même, globalement, ils finissaient tous à moitié vides, quoi, finalement.
Mais aussi, il y a beaucoup une idée de collection dans l'ensemble, j'ai l'impression, pour que ça reste, quoi.
Ouais.
Okay. Ouais. Et du coup, tu parlais de créativité, donc toi, tu dirais que un peu tout ce que tu entreprends dans la vie, c'est vraiment ce truc d'exprimer quelque chose?
J'ai envie de te dire non. Mais j'aimerais bien. Enfin,
Parce que tout à l'heure, tu disais que la créativité semblait très centrale pour toi.
Ouais, c'est central, mais dans l'idée où c'est un vrai sujet de questionnement pour moi, quoi. C'est quelque chose qu'en tout cas, j'ai toujours voulu faire. Je pense aussi en ayant en tête qu'est-ce que ça devait être. En l'occurrence, écrire un grand roman ou sortir un album ou je ne sais quoi, tu vois. Mais jamais que ça pouvait être quelque chose de très simple et de très court et de très... Enfin, tu vois, il y a toujours une forme de pression que je me suis mise là-dessus qui, quelque part, m'a conduit à ne jamais y arriver selon ces critères-là, tu vois. Moi, j'ai un peu ce truc où j'attends qu'on me confie, qu'on me dise « crée », tu vois.
Ouais. «
Crée tel truc pour telle occasion », tu vois. Et d'ailleurs, les seuls, si je puis dire, un peu les seuls trucs que j'ai réussi à terminer, c'est parce qu'on m'a demandé de les faire, tu vois.
Ce serait quoi comme exemple, par exemple?
J'en ai quelques-uns. J'ai une amie, donc Claire, qui, il y a quelques années, avait sorti un bouquin qui nous avait demandé à plusieurs de ses amis d'écrire quelque chose sur le trajet. C'est une amie qui est artiste. plasticienne et qui avait travaillé sur, sur le trajet, quoi, hein, le voyage, le trajet. Et moi, j'avais écrit un truc sur, sur une aire d'autoroute. J'avais décrit une aire d'autoroute un peu minutieusement, tu vois, un peu de manière clinique, comme ça, parce que j'adore les aires d'autoroute. Enfin, c'était un truc...
C'est vrai ?
C'est, ouais.
Putain, alors justement, la première retraite Vipassana que j'ai fait... Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute, ça a été mon premier retour à la réalité. Et je crois que déjà que j'étais pas très fan avant, mais depuis...
Ah, en revenant, en sortant de la retraite, ah oui, ouais, d'accord.
C'était chaud. Et depuis, je crois que je suis en rupture totale avec les aires d'autoroute.
Moi, j'ai une vraie tendresse pour ces endroits, enfin, je sais pas.
En fait, je comprends la tendresse, mais c'est trop industrialisé pour moi. Il faudrait que ça soit un peu plus rustique.
Je comprends. Mais
du coup, t'avais écrit là-dessus.
Ouais, du coup, j'avais écrit ça et c'est un texte que j'ai pas lu depuis des années, mais que j'ai bien aimé écrire, donc je suis assez content et je lui avais envoyé. Il est dans le bouquin. Bouquin que j'ai là d'ailleurs, que je suis censé prêter à mes amis parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires et que je n'ai jamais prêté, donc il est là. Et il y a eu ça, il y a eu... En fait, il faut qu'on me donne une consigne, quoi.
Okay,
ça, c'est un peu... Moi, c'est ce que je dis, c'est comme ça que je le formule, j'ai un peu le syndrome du bon élève, quoi. Il faut qu'on me donne la consigne et après, je fais l'exercice, tu vois, très assidûment et tout, mais moi-même, je n'arrive pas à me donner la consigne. Tu vois, j'ai pu faire des morceaux pour des amis... J'ai un copain qui faisait un court-métrage et je ne sais même plus comment ça s'était fait, mais enfin, il avait été décidé, je ne sais plus si c'est moi qui ai proposé ou lui qui m'a demandé que je fasse la musique. Finalement, le film ne s'est pas fait, mais moi, j'avais pris ça drôlement à cœur. Du coup, j'avais fait 4-5 morceaux au piano. J'étais super à fond. Finalement, le truc ne s'est jamais fait, donc c'est tombé aux oubliettes, mais enfin, peu importe. J'ai fait un remix aussi pour une copine, Pauline, d'un morceau qu'elle avait fait. Je dis, ah, mais je pourrais le remixer. En fait, quelque part, je provoque un peu le fait qu'on me demande, tu vois.
Ouais.
Parce qu'après, je sais que ça va me. J'aurai une deadline, j'aurai quelque chose, j'aurai quelqu'un qui, à l'autre bout, tu vois, qui va relire, qui va me dire, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu peux refaire. Tu peux, enfin, ou touche à rien, c'est super, ou voilà. Mais moi-même, c'est vrai que j'ai du mal à faire ça, tu vois.
Mmh. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, moi, j'étais pareil à l'école. J'avais des très bonnes notes, j'étais très bon élève et je sentais que il y avait un vrai truc de, je sais pas, s'il y avait la bonne combinaison de feeling avec le prof ou la prof. Tu vois, moi, je recevais beaucoup de reconnaissance et du coup, je me sublimais et tout ça. Et mais par contre, à l'inverse, dans la création, quand j'étais à une étape où j'étais autonome dans ce que je créais. J'étais pas du tout fan d'écrire sur un thème ou pour une occasion parce que j'avais l'impression de pas pouvoir vraiment raconter ce que je voulais moi. Mm-hmm. Vu que c'est un sacré taf d'écrire, bah autant que je fasse pleinement ce que je veux et pas devoir passer par un chemin que j'aurais pas emprunté moi, tu vois.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui d'ailleurs c'est drôle parce que vraiment là très récemment je me suis retrouvé un peu comme dans la situation à l'école avec quelqu'un qui où j'étais obligé de vraiment passer du temps avec et qui cherchait toujours à avec une certaine bienveillance mais à me, je sais pas comment on dit, mais comme si la personne cherchait à me nourrir alors que j'avais pas besoin de sa nourriture, tu vois. Et je me rendais compte que j'avais plus du tout les mécanismes que j'avais quand j'étais enfant, j'en avais plus du tout besoin, quoi. Et ça tombait à l'eau en fait toutes les tentatives de la personne et donc ouais, c'est marrant, j'ai changé là-dessus entre temps. Enfin, en tout cas je sens que c'est plus un besoin, quoi. Je vois la vanne, elle est toujours dispo, mais pas du tout besoin que ça passe par là. Ok. Quoi.
Oui, et moi, je ne sais pas si j'en dirais autant, tu vois. Je ne sais pas si...
Ok.
Je pense que j'ai encore un peu... Enfin, j'ai même clairement ce besoin de... Bah, de reconnaissance, finalement. C'est à ça que ça revient, quoi.
Ouais, je vois. Mais après, tu vois, tu disais que tu n'étais pas sûr de... Est-ce qu'il y a tant de créativité dans les actes de tous les jours? Je ne sais pas, je me dis, dans ce que tu décris, rien que le fait de... d'avoir, comme tu as l'air d'en parler, de vraiment plusieurs amis qui t'ont proposé de participer à un projet dans la création. Au-delà de la participation au projet, déjà d'en arriver à ce stade dans une amitié, je pense que, à mon avis, il y a une certaine générosité de ta part et tout qui... Je pense que c'est pas tout le monde qui cultive des relations aussi, tu vois, aussi nourries, aussi qui ont envie de se rencontrer, enfin, vraiment, quoi.
Après, je dis beaucoup, voilà, il y en a pas non plus des tonnes. Et puis,
je pense que déjà 5-6, tu fais un sondage chez les gens.
Non, mais après, c'est vrai que il se trouve que j'ai pas mal d'amis qui font des choses très créatives, dont c'est parfois aussi souvent même leur métier. Et mais du coup, il y a ce truc un peu bizarre où maintenant que c'est leur métier et que moi c'est pas mon métier, quelque part. Enfin, comment dire, j'ai pu avoir... Maintenant, je l'ai un peu moins, parce que je pense que je fais un peu la paix avec ces choses-là, et je comprends que c'est à moi de faire les choses, en fait. Qu'on va pas venir me chercher par la main pour faire un truc, que c'est à moi de me prendre par la main et de faire les choses. Mais il y a pu avoir un peu de frustration, me dire, bah tiens, un tel, une telle fait tel truc. Et moi, j'aimerais bien faire partie de ça, quoi. Mmh. Mais c'est son métier, tu vois, c'est pas du tout... Enfin, j'ai pu avoir de l'envie, tu vois, pour des gens qui arrivent à... au prix de beaucoup d'efforts, et puis de... Voilà... mais qui arrivent à en faire leur métier, même si c'est évidemment pas facile tous les jours, et qui font ça quotidiennement, ou en tout cas plus souvent que moi.
Et ouais, je vois. Et il y a un... Ouais, en plus, je trouve que... J'ai l'impression que contrairement à d'autres activités, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de... Il y a un truc qui est assez particulier... Enfin, c'est pas exactement lié à ce que tu dis, mais moi, je me rappelle à un moment d'avoir eu beaucoup de mal à... j'étais en train d'écrire un scénario et c'était dur de s'y mettre tous les jours et tout. J'avais toujours l'impression que c'était pas facile de se rendre disponible. Et je me rappelle d'une phrase d'Orelsan dans un album qui m'a vraiment fait changer du jour au lendemain là-dessus, où il dit trop de merde à gérer pour écrire l'album. Et je me disais, mais si Orelsan il a ce problème, vraiment ferme ta gueule et va écrire en fait. Genre, tu vois, lui qui est censé être le plus libre possible parce que. Enfin, toute l'industrie de la musique est OK. Si même lui, il a ce problème, c'est qu'en fait, c'est pas un vrai problème. C'est on a tous ça, cette manie. Et ça m'a vraiment... c'était une phrase qui me revenait à chaque fois, quoi.
Bah, c'est marrant. Moi aussi, Orelsan m'a beaucoup parlé à ce niveau-là. Et je sais plus dans quelle chanson, parce que je connais pas non plus très, très bien. Mais à un moment, il parle de toutes les excuses qu'on peut trouver pour pas créer. Et il dit, si tu veux faire un film, prends une caméra de merde et fais un film, quoi.
Ouais.
Et c'est tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai encore pas du tout fini de comprendre, mais c'est que c'est beaucoup, c'est des excuses en fait, il suffit de s'y mettre, tu vois.
D'ailleurs, dans la pression dont tu parlais, moi je sais que du coup, Persona, dernier film que j'ai fait, je me rappelle que dès le début, je savais que ça allait être un travail de titan à financer et tout, et je me suis fait la promesse de me dire je vais le faire. Même si je le fais avec un iPhone et que l'acteur c'est mon pote, je le ferai en fait. Même si c'est pourri, je le ferai. Chaque plan il sera tourné, il sera monté, il sera mis sur YouTube. Et au final ça n'a pas du tout été ça, évidemment ça a été fait avec des moyens convenables et tout, mais de se dire c'est pas tout ou rien, c'est quoi qu'il arrive ça sera fait. Il y avait à la fois un côté où tu dédramatises un peu et aussi du coup un côté où
c'est libérateur,
tu prends soin de faire les choses bien, quoi, parce que ouais, c'est... ça devient plus des degrés de finesse de quelles conditions je me donne plutôt que de se dire ah, est-ce que ça c'est bloquant et que du coup j'abandonne, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est... effectivement, c'est ce que tu dis, c'est pas tout ou rien, quoi. Enfin, c'est-à-dire tout dans le sens où il faut le faire, enfin, j'ai envie de le faire, mais c'est pas ce sera de cette manière-là ou rien, quoi. Ça peut être de plein de manières et au final, ça peut même être mieux que ce qu'on imaginait. Si on bride pas sa créativité dès le début, quoi. Ou même carrément si on s'empêche pas d'agir. Mais ouais, ça c'est quelque chose que vraiment qui me travaille profondément, quoi. Et tu vois, ces dernières années, ça a vraiment évolué parce que j'ai trouvé un espace de... On va dire, j'ai retrouvé un peu un espace de créativité dans la musique. Où je, là, depuis un an, plus d'un an, là, j'organise des soirées avec des copains où on mixe. Donc, on passe des morceaux, etc. Alors, c'est une forme de créativité qui est particulière parce que bah, c'est pas mes morceaux, c'est pas. Voilà, mais disons que je. Moi, la musique, c'est quelque chose. Pour le coup, c'est une lubie qui ne m'a jamais quitté. Je pense que je peux même pas parler de lubie. En fait, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'absolument fondamental dans ma vie, quoi. Et ça l'a vraiment toujours été. J'en faisais pas forcément grand chose. Enfin, c'est-à-dire, j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours fait des playlists, j'ai toujours. Voilà. Et puis là, depuis un an et demi, on organise des soirées avec des copains. Donc là, à côté de chez moi, à Bagnolet et à Montreuil, sur Paris. Et en fait, ben, justement, ça a vraiment redonné de la créativité dans mon quotidien. Parce que on fait pas des soirées tous les jours, bien sûr, mais en tout cas, moi, tous les jours, j'y pense un petit peu. à organiser la suivante. Si elle est organisée, comment est-ce qu'on la prépare? Est-ce qu'on a fait l'affiche? Qu'est-ce que je vais jouer? Est-ce que j'ai téléchargé les sons? Comment, enfin, tu vois. Et autour de la musique, quoi. Et en fait, quand je parlais tout à l'heure de personnes qui sont autour de moi et dont je m'inspire pour créer de manière beaucoup plus relaxe, tu vois, bah, c'est ces potes-là, en l'occurrence, qui se reconnaîtront tout à fait, que j'ai vu et avec lesquels j'ai créé de manière totalement, mais sans même s'en rendre compte.
Ouais.
Parce que eux possèdent des compétences que moi j'ai pas. En l'occurrence, il y en a qui sont monteurs, il y en a qui sont cadreurs, il y en a qui sont. Je pense à un truc en particulier où, enfin, c'est quelque chose qui me revient. On avait voulu faire une petite promo, tu vois, pour la soirée. Donc c'est un truc, je te parle. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont venir. Hein, c'est pas une promo de fou furieux, mais. Eux, leur métier, c'est ils sont vidéastes, ils font de la vidéo, tu vois, pour les entreprises, pour des artistes, etc. Et du coup, en fait, en, je sais pas, en une heure, en deux heures, allez, on a fait un petit réel pour Instagram, donc une petite vidéo qui fait, je sais pas, qui devait faire une minute. On s'est marré, mais comme des cons. Et comme c'est leur métier, ben, c'était un truc qui avait une gueule, mais incroyable. C'était... Encore aujourd'hui, ce truc, il y a des gens qui m'en parlent, qui me disent « Ah ouais, ta vidéo, elle était super bien et tout. » Et on a fait ça, mais en deux minutes... en faisant les cons, et eux, avec leurs compétences, bah, du coup, ils ont réussi à en faire un truc super. Et ça, ça fait partie des moments où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il suffit de se marrer.
Mais grave.
Et de faire ça sérieusement, parce que quand même, on l'a fait sérieusement. C'est-à-dire que, comme tu dis, on s'est dit, on va le faire, donc le truc, on l'a fait. C'est sur un temps très court, hein, c'est un peu du jour au lendemain, mais en tout cas, le truc est fait, il est publié, il est visionné, il est partagé, et il existe. Et ça, on peut le supprimer, évidemment, mais je veux dire, en tout cas, il a été créé, quoi. On a été au bout de ce truc, la soirée est passée, on passe à autre chose.
Ouais, après, peut-être tu peux essayer de faire une sorte de pratique de la création quotidienne, tu vois.
Ouais, complètement, mais ça, c'est pareil, c'est un truc...
Sans but, ou en tout cas, en se disant, il faut plutôt faire une pièce tous les jours.
Ouais, complètement.
Qu'elle soit utilisée ou pas, ou grandiose ou pas, mais...
Complètement. Mais...
Ouais, moi, ça me fait vachement penser ce que tu disais sur ce réel. J'avais fait une boîte mystère,
mm-hmm.
Où ça te proposait en gros de vivre une aventure pendant à peu près un mois. Et donc j'avais fait un petit site pour présenter et je le montre à un pote et il me dit sur le langage et tout, je pense que la présentation on peut faire mieux. Et il vient chez moi et on a passé je pense 3-4 heures, on était morts de rire du ouais. début à la fin et on a fait un truc qui est vraiment bien en plus derrière un site de présentation qui est vraiment bien et, mais avec des private jokes dans la... Enfin, tout était drôle tout, et jusqu'au bout dans la forme, ouais. on a trouvé des petits éléments visuels et tout. Mais au point où je me suis dit, mais merde, je rêverais en fait de proposer ça à des entreprises, de leur refaire leur truc. Après, je pense que c'est pas réaliste parce que ça demande. Ça dénote quelque chose de l'ADN quand même du créateur de se permettre de ces petites folies sur le site. Mais ouais, pareil quoi, de se dire, mais en 3 heures, on était mort de rire et il s'est joué quelque chose d'important là.
Ouais, complètement. Et ouais, j'ai vraiment une phrase qui me revient qu'un de mes potes, bah, le pote dont je parlais, que je salue d'ailleurs, qui a écrit ce livre. Au cours d'une de ces soirées où sans doute je me lamentais et où on parlait de créativité, de justement toutes ces représentations, tu sais, de l'auteur au travail, tu sais, qui est sur sa table là, qui est habité par l'inspiration et qui comme ça pond des trucs et lui me répondait que en fait ben ça, enfin selon lui, que en tout cas de son expérience c'était du pipeau, quoi.
C'est 1% du temps, quoi, et encore.
C'est 1% du temps, et encore, tu vois. C'est tout le reste, c'est du travail. T'as pas envie de le faire. Tu te lèves le matin, t'as pas envie de le faire. Faut le faire. Et petit à petit, t'y arrives. Et il m'avait cité cette phrase. Alors, j'ai oublié le nom du poète grec qui a écrit ça, mais c'est un poème qui s'appelle Le Couteau. Et alors, je peux pas le citer de mémoire, mais enfin, c'est quelque chose du genre...
J'essaierai de le mettre en description.
Ouais, j'essaierai de le retrouver. C'est assez court et puis c'est tu aiguises ton couteau et le contact de la lame sur la pierre crée des étincelles, mais tu ne te laisses pas éblouir par les étincelles. Ton but à toi, le couteau.
Ouais.
Et ça vraiment c'est un truc, ça m'a complètement transpercé parce que c'est exactement ça en fait. Moi je me fais éblouir par les étincelles, quoi. Tu vois, j'écris un truc, je me dis ah là là, c'est formidable, tu es génial, et puis je m'arrête là, tu vois.
La pyrotechnie.
Ouais, exactement. Et j'arrive jamais jusqu'au couteau, quoi. J'ai que des souvenirs d'étincelles ou que des fois des petites bribes d'étincelles que je peux retrouver dans tous mes carnets qui sont éparpillés partout, tu vois. Mais j'ai pas de couteau, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais arriver à atteindre un jour, quoi. Arriver à faire un couteau, tu vois.
Ouais.
Et je pense que je vais y arriver, hein, mais en étant plus clément avec moi-même et en essayant de... Bah, comme tu disais, au quotidien, de faire, bah, tu vois, ce couteau, bah, vas-y, je passe un coup sur la pierre et puis je le repose, quoi. Chaque jour.
Ouais. Je sais plus qui c'est... Il y a un peintre comme ça qui a fait un tableau en mettant un coup chaque jour.
Ah bah ouais.
Un coup de pinceau.
Mmh. Ouais, non, mais c'est... Ça paraît... En fait, sur le coup, quand tu le fais, tu te dis, mais je vais jamais y arriver, tu vois. Et il y a un... Pardon, j'arrête pas d'enchaîner sur des trucs, mais en fait, c'est tellement... Je pense au fils d'un ami, tu vois, qui a un enfant qui a 8 ans, que j'embrasse aussi, d'ailleurs, si jamais il écoute, qui voulait écrire un poème pour son papa, tu vois, pour la fête des pères. Donc, trop mignon. Moi, j'étais chez eux pendant le week-end. Il me dit, ouais, tu veux pas m'aider et tout à écrire Je dis, bah ouais, si tu veux... Et il me dit, alors j'ai calculé, la fête des pères, c'est dans une semaine. Si j'écris 2 vers par jour, j'ai mon poème à la fin. Et je te jure, ça m'a tué. Il m'a tué, quoi. Et tous les jours, bah, j'y étais, je sais pas, peut-être pendant 2 ou 3 jours, on a écrit 2 vers. Enfin, il a écrit 2 vers et il me faisait lire. Je disais, bah, c'est super et tout.
Et ça, c'est...
Pardon, il s'arrêtait. Il posait la feuille. Il était là, c'est bon, j'ai fait mon truc, je referai demain, tu vois. Et j'étais là, mais en fait... C'est bon, t'as gagné, quoi. T'as gagné le jeu de la vie, tu vois. C'est ça, pour moi, mais si j'étais gamin, c'est un truc vraiment que j'aimerais leur inculquer. C'est petit à petit, quoi.
Ouais. Et ça, je trouve, c'est un truc qui est pas mal montré dans le documentaire qu'a fait Orelsan. Je sais pas si tu l'as vu, la série documentaire.
Je l'ai pas terminé, okay. Mais j'ai trouvé super.
Bah, dans la deuxième saison, justement, il y a ce moment où c'est un peu la merde, la deadline de l'album approche vraiment. Et il a quasiment tous les morceaux, mais il manque toujours des bouts. Des fois, il a que le refrain, il manque tous les couplets. Mmh. Des fois, il manque un couplet, des fois, il manque 4 phrases. Et donc, c'est vraiment la phase où c'est plus de la création, genre d'émettre des idées de morceaux. C'est vraiment resserrer tout pour en faire quelque chose
de plus dur,
de consistant, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment dur parce que c'est pas ce qu'on t'a vendu dans l'art, en fait.
Non.
C'est vraiment de la... J'allais dire de la manutention, c'est
laborieux,
pas ça, mais...
Quoi.
Ouais, c'est vraiment laborieux, ouais. C'est de la logique. C'est... Enfin, pas de la logique, mais en tout cas, c'est quelque chose de très pragmatique, quoi.
Ah, c'est de la logistique, quoi. Ça, ça va là.
Et c'est pas facile à faire. Et le problème, c'est que si tu lâches à ce moment-là, bah, tu finis pas.
Ouais.
Et pourtant, ça, c'est une grosse part de la création,
bah,
quoi.
Ouais, ouais, c'est énorme.
Et bah, y a un peu de ça, quoi, dans ce que cet enfant faisait de vraiment... chaque jour avancer vers 100%, en fait.
Complètement.
Alors que si t'es que dans le... Bah, je sais pas, peut-être c'est ça les étincelles, mais si t'es que dans... Ah, ce personnage, ça serait cool. Ah, cette scène, ça serait cool.
Complètement.
Tu crées des idées, mais si ça sera autant de boulot de les lier entre elles pour en faire un truc cohérent.
Ouais.
Et tant que c'est pas fait, tu n'approcheras pas de la fin, en fait.
Bien sûr.
Et ah, c'est chaud, hein, ce rapport à ça.
Ouais. Et pour le coup, la méditation, enfin, là où on s'est rencontrés tous les deux, cette technique-là, franchement, et puis tout ce qui va derrière, enfin, un peu tout la vision du monde que ça implique et la vision de soi-même que ça implique, me fait vachement prendre de recul là-dessus, quoi. Sur le fait de petit à petit, tu vois, tous les jours, tous les jours un peu, s'y mettre. Cette idée de s'y mettre, tu vois. Même quand t'as pas envie, s'y mettre.
Au foot, tu parles ?
De quoi ?
Le 6 mètres au foot.
6 mètres. Oh, même quand t'as pas envie, tu te tires un petit 6 mètres. Toujours.
Toujours.
Mais
Non, mais c'est clair, ouais, de démarrer. Il y a vraiment un changement
start game.
Presque physiologique, tu vois, dans le fait de...
Mais oui.
Hop, rentrer dedans.
Mais oui, mais c'est... Bah, c'est... Après, tu peux... C'est tout un tas de métaphores qui peuvent venir, mais tu vois, le rocher qui est limé... jour après jour par le torrent, enfin en fait c'est ça, et le rocher, les galets, ils sont pas nés galets, tu vois, au départ c'était des énormes rochers, et puis enfin, c'est des trucs qui peuvent paraître bateaux, mais je trouve que quand on arrive à ressentir ça, que tous les jours on se rapproche un petit peu plus du galet ou du couteau, ben c'est, et j'y suis pas arrivé, hein. Mais par moments, sur des petites périodes, j'ai pu ressentir ça, tu vois, sur des... ou sur des projets pro, mais qui me demandait d'être, tu vois, concentré, et je voyais la montagne et je me disais mais jamais j'y arrive, et puis en fait ben un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, et après tu te retournes, tu fais ah ouais, j'ai déjà fait tout ça, bah ben, vas-y, on continue. Mais ouais, faut de la clémence, enfin en tout cas faut de la clémence envers soi-même, et puis et de la confiance en en le bout de la route, quoi.
Ouais. Si tu veux, je te propose une petite virgule.
Ouais.
On va voir si ça change le rythme. Du coup, à cette retraite, moi, quand j'avais fait la cuisine et tout, et pas la méditation, ce qu'on faisait tous les soirs, c'était on se retrouvait pour faire un petit bilan de ce qui s'était passé. Et juste avant, on faisait une minute de Anapana ensemble. Donc, c'est méditation sur... on se focalise sur la respiration pour calmer l'esprit. Si tu veux, on peut faire une minute là.
Ah, mais carrément. Tu sais que c'est marrant, je voulais te proposer ça.
C'est vrai
quand je... Parce que je suis arrivé un tout petit peu en retard à notre rendez-vous, donc qui était chez moi. Donc, j'étais même pas là pour t'ouvrir. Enfin, si, finalement, j'étais là. Mais... Et je me suis dit, j'étais dans la rue en train d'un peu de trottiner bêtement. Là, et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai envie que quand on arrive. Et je l'ai pas fait parce que finalement, on a discuté.
Ça, ah, mais t'aurais pu, ça aurait été avec plaisir.
Mais juste un petit, tu vois, petit temps, quoi. Mm. Donc, avec plaisir.
Ok, vas-y, on part une minute.
Allez.
Si tu veux te joindre à nous, cher auditeur, tu peux porter ton attention sur la respiration, prendre conscience de l'air qui rentre, qui reste en suspens un instant, et l'air qui sort. Ah, merci.
Merci à toi. J'étais parti, là.
Ouais, pareil. Vraiment, je pense qu'au bout de... Même 20 secondes, en fait, tu sens un truc qui...
Ouais, non, c'est assez fou, ouais. Mmh.
Mais et... si tu veux, tu me parlais de... Tout à l'heure, avant qu'on enregistre, pas mal de trucs spirituels qui t'arrivaient suite à ces retraites. Ça te dit de rentrer un peu dedans ?
Ouais, carrément, avec plaisir.
Juste pour poser un peu le contexte, du coup... Donc, ça s'appelle la méditation Vipassana. C'est une méthode vraiment ancestrale. Et donc, c'est des retraites qui sont quand même assez intenses et assez disciplinaires.
Mmh, exigeantes.
Ouais, donc, c'est 10 jours où on fait 10 heures de méditation par jour, où on ne parle pas, les hommes et les femmes sont séparés, pas le droit... on n'a pas vraiment d'effet personnel, en fait. Pas le droit de trucs pour écrire, pas le droit de téléphone, d'ordinateur, de...
De musique.
Ouais, pas de musique, pas de sport non plus. Donc, c'est vraiment que nous et la méditation. Mm. Donc, c'est assez intense, quoi. Et quand on sort de là, tu rentres dans des... Vu que tu parles pas aux gens et que tu sors pas non plus dans des trucs qui te font voyager mentalement, tu rentres dans des trucs assez introspectifs, quoi, assez forts.
Ouais.
Mm. Et je sais pas, d'ailleurs, toi, ce que tu as pu vivre... Parce que c'est marrant, les enseignants parlent très, très peu de l'aspect spirituel, en fait. C'est très pratique... instructions et les discours là-dessus. Toi, c'est les trucs spirituels que tu as pu vivre, ça, c'est davantage dans les retraites ou plutôt en pratique quotidienne chez toi?
Après, moi, je suis assez bébé dans la pratique. Hein. Moi, ça fait que... Bah, ça fait même pas un an que je pratique finalement parce que ma première retraite, c'était en octobre. Donc, ça fait bientôt un an, effectivement. Quasi, ouais. Ça fait bientôt mon petit anniversaire de méditant. VIP anniversaire.
L'horreur.
Mais ça a été une année intense à plein de points de vue. Et surtout, mon premier séjour a été hyper intense. Et du coup, je dirais que, si tu veux parler en termes d'intensité, disons, spirituelle, oui, c'était clairement là-bas, quoi.
Ok.
En revanche, mon retour à la vie a été très intense à sa manière aussi. Mais là, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par intense, tu vois. Et qu'est-ce qu'on met derrière ? Est-ce que ça va être une intensité de, tu vois, de sensation, d'être là, d'avoir, tu vois, je sais pas, l'impression que tu vois le monde autrement ? Ou est-ce que ça va être quelque chose de plus contenu, mais tout aussi intense, finalement, où ta vie va être, tu vois, comme quelque chose qui serait un peu dilué, mais qui
Pour moi, tout est plaisant et fort, du coup, je prends tout. Hein,
du coup, voilà, en termes d'intensité, tu vois, mon premier cours, disons physiquement, ça a été fort, quoi. Tu vois, j'ai pleuré, j'ai eu mal partout, parce qu'en fait, on est, comme tu disais, on est assis sur des coussins. Enfin, on peut aussi être assis sur des chaises si on le souhaite. Et moi, c'était un coussin, quoi. Et enfin, j'avais pas l'habitude de faire ça, donc ça fait mal, quoi. T'es assis en tailleur, j'avais mal au cul, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux chevilles, j'essaye toutes les positions possibles. Donc ça, c'est intense à ce niveau-là. Et ça t'amène dans des formes d'intensité spirituelle aussi, parce que, en fait, moi, je m'étais jamais trouvé dans cette situation, quoi.
Ouais, c'est clair que on passe par des douleurs physiques qui sont assez inimaginables avant de l'avoir fait, quoi.
Ben parce qu'en fait, moi, mon corps, il n'était pas... J'avais fait un peu de méditation, mais vraiment comme ça, quoi. J'avais pris une appli, tu vois, avant de m'endormir, en me disant, c'est bien. Alors, ouais. Je pense que c'est très bien, hein, ce genre de truc, mais moi, ça s'arrêtait là, tu vois. J'en avais fait un petit peu quand j'avais pris 2-3 cours de yoga par-ci, par-là, mais ça, c'était tout. Et donc là, d'ailleurs, c'est un des trucs qui me faisait un peu peur avant d'y aller. Je me disais, mais 10 heures par jour, mais je ne vais jamais y arriver, tu vois. De la manière, et c'est pour ça.
De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de préparation. C'est un peu comme les marathons, tu sais, les coureurs, ils courent jamais la totalité du marathon en entraînement, quoi. Il y a un peu de ça, quoi.
Ouais. Et du coup, ça rejoint juste ce que je disais juste avant sur en quoi ça m'aide de me dire que petit à petit, tous les jours, etc., c'est qu'en fait, quand tu vois ce truc-là de l'extérieur, tu te dis, mais jamais j'y arrive. 10 jours sans parler, assis sur un coussin, c'est impossible, tu vois. Et en fait... Alors, c'est très dur, hein. Enfin, là, pour être revenu de mon deuxième cours cet été-là, j'avais oublié que c'était dur. Aussi parce que j'avais un peu décroché de la pratique les mois précédents, donc j'avais... Aussi, mon corps s'était un peu déshabitué d'être assis en tailleur, tu vois, pendant longtemps. Mais en fait, j'y suis arrivé, quoi. Parce que, une chose à la fois, quoi. Une heure à la fois, et puis même pas une heure à la fois, une minute, une seconde, et puis en fait, t'y arrives, quoi. Mais ça m'aide un peu à disséquer, quoi, et à plus voir des énormes blocs qui paralysent.
Ouais.
Un petit peu, en tout cas.
Moi, je sais pas, pour moi, c'est tellement dur que je sais même pas si je mets en place une stratégie ou pas, c'est juste...
Ah non, mais là, je te parle de ça, j'ai l'air tout à fait en maîtrise de ce que je dis, hein. Mais là, pour mon deuxième cours, franchement, j'en ai chié, quoi.
Ouais.
Genre, les trois premiers jours, je me disais, mais jamais j'y arrive, quoi. Comment j'ai pu garder un souvenir aussi, aussi incroyable d'un truc aussi dur?
Mais ça, c'est dingue, hein, parce que même le dernier jour où le programme est un peu plus allégé, tu reparles avec les gens et tout, même là, tu commences déjà à oublier la difficulté. Ça, c'est très curieux. Parce qu'elle est tellement irrationnelle que ton esprit n'arrive vraiment pas à la...
Ouais. Et ça, finalement, je trouve que c'est... Enfin, là, du coup, comme c'était ma deuxième fois, j'ai été un peu plus attentif à ça, à cet hyper enthousiasme que je pouvais avoir la première fois, et que j'ai d'ailleurs, peut-être même là, en parlant, je ne m'en rends pas trop compte, mais... c'est que ça va disparaître à un moment, cet enthousiasme, et c'est pas grave, tu vois, mais du coup arriver à un peu à le tempérer, ou en tout cas à avoir une espèce de conscience que c'est pas éternel, quoi, et que c'est à conquérir un peu chaque jour.
Ouais.
Et je pense que quand je suis revenu la première fois, c'était tellement intense ce que j'avais vécu que ça fait un peu, moi ça m'a un peu fait perdre les pédales, tu vois, pas dans un sens
C'est trop, pour le coup les trucs spirituels vraiment forts m'arrivent plus en dehors des retraites, même si là j'ai eu une grosse ouverture sur la fin de la dernière retraite qu'on a fait ensemble, mais et à chaque fois ça me fait t'as une espèce d'amour universel, tu sens que tu peux être pleinement toi-même. Exactement. Tout est accepté, et en fait quand ça se referme, parce que ça se referme toujours au bout de quelques jours, c'est trop bizarre à accepter, parce que t'as l'impression que t'es en train de faire un truc mal pour que ça se referme, alors que c'est pas le cas, tu vois.
Ouais.
Et moi, très souvent, ça me laisse avec une douleur, un mal de cœur, quoi, comme une rupture amoureuse, un peu, quoi.
Ouais.
De perdre cet espace aussi abondant, tu vois. C'est trop bizarre à vivre.
Ouais. Ouais, tu décris, enfin, je me retrouve vraiment dans ce que tu décris. Moi, j'ai eu un espèce de backlash. J'en ai d'ailleurs parlé avec un autre gars qui était avec nous, que j'ai revu il n'y a pas longtemps à Paris, qui était mon voisin de méditation. Et on a eu un peu sensiblement la même chose, quoi. Un espèce de backlash, de retour de flamme, enfin, de retour de vide un peu, quelques temps après, quand les effets se dissipent. Et c'est ça qui est difficile, quoi. C'est... Ouais, comme tu dis, d'avoir... De sentir que cet espace immense que t'as ouvert à l'intérieur, où tu te sens... Enfin, moi, je me sentais conscient, tu vois, profondément conscient de tout ce que je faisais, tu vois. Genre, c'était fou, tu vois. Je touchais un truc, j'avais l'impression que... Enfin, franchement, j'avais l'impression d'être sous drogue, tu vois. J'ai quasiment jamais pris de drogue dans ma vie. En tout cas, pas ce genre de drogue, mais... vraiment, c'était fou, quoi. Une présence... Et en fait, après, le truc se referme. Et là, tu dis, mais comme tu dis, t'as l'impression d'avoir fait un truc mal. Parce que... Mais en fait, non, c'est comme ça. Mmh. Et ça, je trouve que c'est difficile de... Enfin, moi, j'ai eu du mal à l'accepter, en tout cas.
Ah bah, ouais, c'est trop bizarre, quoi. T'as goûté à Dieu et...
Ouais. Mais finalement, quelque part, là, c'est ce que je me dis après mon deuxième cours. Est-ce que c'est pas là que ça commence, en fait? Enfin...
Je sais pas si je vois un commencement, mais en tout cas, ça fait partie de... Ouais, de la pratique.
Ça fait partie de la pratique, mais en tout cas... Enfin, je dis ça dans le sens où ça pourrait être le moment, et d'ailleurs ça a été le moment, où j'ai abandonné un peu, tu vois, où j'ai délaissé.
Ah oui, d'accord, ouais.
Et c'est exactement pareil que les étincelles, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, tout ça, finalement, se rejoint, c'est que ça fait plus d'étincelles, et ben, j'aurais pas mon couteau non plus, tu vois.
Ouais, ouais.
Et alors qu'en fait, est-ce qu'il faut pas se remettre le cul sur le coussin, mais tranquille, tu vois, mais un peu tous les jours. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait aussi comprendre comment je fonctionnais par rapport à la créativité et par rapport à tellement d'autres trucs. C'est finalement une forme d'impatience, quoi.
Ok. Alors après, c'est marrant parce que autant pour moi, c'est pas facile à vivre ce moment où ça se referme, quand j'ai des ouvertures comme ça. Autant, pour en avoir vécu quand même, je sais pas combien, mais je pense que ça m'arrive au moins une fois ou deux par an. C'est tellement aléatoire, et les circonstances d'apparition et la fréquence, le moment et tout, c'est pas lié à parce que j'ai bien médité ou parce que j'ai vécu quelque chose de grand, que du coup je les attends pas du tout, en fait, parce que ça arrive si là j'ai une légère interrogation, c'est que ça fait 2 ans que ça m'arrive en tout début d'année, donc on verra en début 2024. Okay, okay. Mais sinon, en tout cas, je médite pas pour arriver à ça, enfin pour avoir ces trucs là parce que j'ai l'impression que c'est à la fois, je trouve que j'en ai suffisamment pour me dire putain, c'est vraiment cool, quoi.
Ouais.
Et à la fois, c'est tellement impénétrable comment ça se produit et pourquoi.
Attends, tu parles des ouvertures ou
ouais
des...
je parle vraiment de moments spectaculaires, quoi.
Ouais. Je pense que dans ma pratique, si j'ai pu en avoir, mais ma pratique personnelle hors des cours, quoi.
Ouais.
Mais rien de comparable, je pense. Ou peut-être une ou deux. La première fois que je suis allé à un cours collectif, enfin un groupe, une méditation de groupe, j'ai été surpris. Je me suis même dit, voilà, vache. Enfin, c'était particulièrement puissant, et je suis sorti de là alors que j'étais arrivé un peu à reculons, quoi. Je me disais, ouais, de toute façon, là je commence déjà à dévisser de la pratique, c'est pas ça qui va me remettre sur le, tu vois, déjà un truc un peu négatif. Et je suis ressorti de là, mais piou, les yeux, enfin j'étais un peu rechargé, quoi.
Ok.
Et mais c'est vrai que pas forcément, c'est plus dilué, je dirais. Et du coup, ce qui peut me conduire, ça fait pas d'étincelles, quoi. Et c'est là que pour moi, c'est un peu le challenge, justement.
Ouais, ouais.
C'est de pas abandonner alors que ça fait pas d'étincelles, quoi. Parce que finalement, dans le sous-bassement, ça travaille, en fait. C'est, je sais pas, c'est un peu comme faire des exercices physiques et qu'à la fin t'arrêtes et t'as pas les muscles qui brûlent, tu vois. Tu te dis, en fait, j'ai pas travaillé, mais en fait, si, t'as travaillé. Mais.
Après, moi, je pense que historiquement, en tout cas, j'ai eu tellement. Un peu ces parasites qu'on voit sur la couverture du carnet que j'ai décrivé au début, qui pour moi, peut-être, symbolise un peu cette propriété de mon esprit à s'accrocher à des trucs et se crisper. Au début, pour moi, la méditation, je voyais directement, quoi. Si je méditais même une demi-heure, dans la journée, ça allait beaucoup mieux. Et si je méditais pas pendant une semaine, j'étais pas bien du tout. Du coup, rien que ça, ça me poussait à garder une régularité, c'est clair.
Mais moi, justement, c'est ça qui est fou, c'est que même ça ne me pousse pas.
Ok.
C'est ça, j'arrive pas à me l'expliquer encore. Mais
ouais, c'est étrange, ça.
C'est-à-dire, si, ça, évidemment, ça me pousse, mais au bout d'un moment, je perds ça de vue, enfin, même le bienfait que je peux en retirer, au bout d'un certain... Enfin, en tout cas, encore une fois, hein, je suis un bébé là-dedans, hein, donc c'est mon expérience de un an, quoi. Mais dans, au cours de cette année-là, ce que j'ai jamais perdu de mon esprit, c'est que ça m'apportait des bienfaits, des bénéfices très nets, très mesurables et assez incomparables dans ma vie. Et pourtant, j'ai décroché, tu vois. Mmh. Mais j'y suis revenu. Enfin, je me suis réinscrit. En fait, j'ai fait le... C'est pour ça que j'en ai fait deux, quelque part, assez rapprochés, quoi. C'est parce que je me suis dit, là, je pense qu'il faut remettre une petite couche. Que je sentais que c'était quelque chose de bénéfique pour moi, mais je sentais aussi que... Bah, que j'allais un peu faire comme pour tout le reste, c'est-à-dire m'en... Tu vois, tranquillement m'en éloigner. Et peut-être que c'était pas grave. Mais je me suis dit, bah tiens, vas-y, réinscris-toi. Et on va voir ce qui se passe. Mmh. Et je pense que je vais procéder un peu comme ça maintenant. À savoir, comme des bornes régulières, tu vois, ouais. pour remettre un petit coup de batterie, quoi. Mmh. Mais...
Et du coup, hors pratique, enfin, dans la vie plus éveillée, t'as l'impression de... qu'il y a eu des arcs un peu de changement depuis que t'as commencé ?
Ouais, franchement, ouais. Il y en a eu énormément, ouais. Il y en a eu énormément. Enfin, après, je sais pas, ce serait intéressant, parce qu'il y a ce que moi je ressens, mais peut-être que c'est pas visible de l'extérieur, ou tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, moi, intérieurement, ouais, je ressens vraiment des changements assez fous, quoi. Qui parfois s'estompent, parfois pas. Il y a des choses, qui ont pas trop d'échanger, on va dire, depuis l'an dernier. Mais, ou qui se sont estompés, d'autres un peu moins. Il y en a eu plein. D'ailleurs, j'avais même fait encore un truc que j'avais projeté de faire et que j'ai pas terminé. J'avais commencé à ça, j'ai fait toute une liste des trucs qui ont changé chez moi, tu vois. Enfin, qu'en tout cas, je...
T'as des exemples en tête ?
Ouais, je dois même pouvoir la trouver, la liste, elle doit pas être très loin. Mais ouais, j'en ai plein. Ben, quand je suis rentré, bah, je sais pas... j'avais comme retrouvé un peu le goût de des aliments, certains aliments. Mmh. Je vais dire en vrac, hein, parce que ça touchait vraiment un peu tous les domaines de ma vie, quoi. Mais j'ai eu des envies de demander pardon à des gens. J'ai eu le sentiment que j'en voulais plus à certaines personnes. Mmh. Je me suis rendu compte que je faisais du bruit que j'étais assez bruyant dans ma manière d'être.
Du bruit sonore ou
du bruit sonore. Ouais, je tapais sur les trucs. Enfin, okay. Tu vois, je claquais les portes, mais à l'insu, enfin à mon insu. Quoi. Mm. J'ai des potes qui se foutaient un peu de ma gueule là-dessus, tu vois, qui se reconnaîtront si jamais ils écoutent ça. Et moi, je disais, mais ah, vous exagérez et tout. Et en fait, j'en ai eu une preuve. On est assis sur la preuve d'ailleurs. Enfin, je suis assis sur la preuve, c'est-à-dire sur mon parquet. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que en fait, je rendais fou mes voisins parce que je tapais des talons et je Et en fait, je m'en étais pas rendu compte. Je pensais que j'étais le voisin idéal, super.
Enfin, je rêverais d'aller faire un reportage, leur demander est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en octobre 2022.
Bah, rigole pas, mais franchement, moi aussi, j'aimerais bien. J'adorerais. Ce serait génial. Ce serait génial. Ouais, franchement. Alors, j'ai deux voisins. Mon appart, il est à cheval. Enfin, il y a deux apparts dessous, quoi. Il y en a un, c'est un couple de personnes âgées que j'ai jamais trop vu, donc je sais pas s'ils accepteraient trop, mais mon autre voisin, je le croise assez souvent quand il rentre du boulot, il bosse dans un resto, donc il rentre tard le soir. Ça m'arrive de le croiser, et je pense que lui, je pourrais lui en reparler, mais je pense qu'il entend. Déjà, enfin, en fait, déjà maintenant, à chaque pas que je fais dans cet appart, j'ai la conscience qu'il y a quelqu'un en dessous. Chose qui n'était pas le cas avant. Alors que c'est pas mon premier appartement dans ma vie, tu vois, j'ai déjà vécu dans des appartements, j'ai pas grandi dans un appartement, mais. Et ça a été assez, assez fou, quoi. Mmh. En termes de réalisation de qu'est-ce qu'il y avait vraiment, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait du bruit, quoi. Et d'ailleurs, en fait, c'est franchement, elle est assez folle, cette histoire. C'est juste avant de partir à mon premier cours de Vipassana, je descends de chez moi, mais vraiment la veille, hein, ou l'avant-veille. Je crois même que c'était la veille. Je descends et donc ce couple de personnes âgées m'attend à la porte et me hurle dessus. Tu vois, ils avaient la tête dans l'embrasure de la porte et ils me hurlent dessus, ils m'insultent, ils disent mais ça va pas, mais vous êtes complètement malade, mais on n'en peut plus de vous, nanana. Et je te jure, mais je suis tombé des nues, quoi. Wow. J'étais là, mais attendez, mais qu'est-ce que vous dites? Ouais, vous faites un boucan pas possible, on n'en peut plus et tout. Et là, moi, tu sais, je suis tout seul chez moi, j'habite tout seul, tu vois. J'étais là, mais de quoi ils parlent? Et je pouvais pas discuter avec eux, parce que franchement, ils étaient je pouvais pas discuter avec eux. Donc je dis, bon, bah écoutez, bonne journée, au revoir, tu vois. Pff, ça m'a mis mais mal toute la journée.
Ah bah ouais, j'imagine.
Horrible, tu vois. Et je comprenais pas. Juste après, je croise mon autre voisin, je lui dis, mais attends, il m'a dit, ouais, c'est vrai que... Je le connaissais pas à l'époque, je l'avais à peine... parce que ça faisait même pas 6 mois que j'habitais là. Ce qui est énorme pour ne pas croiser ses voisins, mais enfin bon, ça reste les grandes villes et c'est vrai que malheureusement, on ne connaît pas toujours ses voisins. Et il me dit, ouais, c'est vrai que vous faites beaucoup de bruit quand même. Hein. Je fais, ah bon, mais je fais quoi comme bruit? Il dit, ben, la nuit, vous bougez les meubles, vous, je sais pas, on dirait que vous déplacez les meubles. Et j'étais là, mais de quoi il parle, tu vois? J'avais l'impression de... Je lui dis, mais écoutez, donc il me raconte ça et tout. Je lui dis, mais je suis désolé, je me fous pas de votre gueule, mais... Mais peut-être que je suis somnambule, en fait. Vraiment, il me dit, mais je dis, mais c'est à quelle heure? Il me dit, bah, je sais pas, une heure, à deux heures. Je dis, mais quoi tu parles, quoi? Je lui dis, écoutez, franchement, je suis vraiment désolé, mais je comprends pas, quoi. Vraiment, je comprends pas. Peut-être que je suis somnambule. Et je rentre de ma retraite. En fait, je me rends compte que c'était moi. C'était moi. Et 2 heures du mat, bah ouais, des fois, je me couchais à 2 heures parce que je faisais de la zig dans ma... Bref, dans mon bureau, où je faisais du... Je sais pas quoi. J'étais sur mon téléphone, mon ordi ou quoi. Et je traversais mon appart pour aller dans ma chambre. Après, je revenais parce que j'avais oublié mes lunettes. Je repartais pour me brosser les dents, machin. Sauf que comme je tapais des talons, en fait, ça faisait un bruit de dingue. Mmh. Mais j'étais à 1000 lieues. Tu vois, j'avais même pas conscience de ça, tu vois. J'ai même jusqu'à été lui dire que j'étais somnambule. T'imagines quand même le degré de dissociation du truc. C'est un truc de fou. Et ça, pour moi, ça représente assez bien ce qu'a fait ce séjour sur moi, tu vois.
C'est génial. T'imagines s'il faut leur qualité de vie, s'est améliorée de 50%.
Non, mais attends, mais je pense qu'ils vivaient un cauchemar. Hein. Parce qu'en plus, les pauvres, franchement, ça a l'air de pas être facile. Ils sont très vieux, ils sont malades et tout. Enfin, franchement, je pense qu'ils m'ont mais haï. Alors que moi, j'avais l'impression d'être super sympa. Je leur disais bonjour quand je les croisais dans le couloir. Enfin, tu vois. En fait, j'étais leur pire cauchemar, tu vois. Et ça a été, mais... Du coup, après, quand je suis revenu, j'ai voulu aller leur parler. Je leur ai écrit, je leur ai fait des petits gâteaux. Je leur ai écrit une lettre. Ils m'ont pas ouvert. Je leur ai écrit une lettre que j'ai laissée sur le poignet de la porte.
Donc ça, t'as fait ça après la retraite?
Juste après. Parce que, en fait, dès que j'ai mis les pieds dans mon appart, comme je marchais plus pareil... Parce que pendant 10 jours, j'ai marché dans la forêt, tu vois, ou dans des salles où faut pas faire de bruit, où en fait, comme on se parle pas, bah du coup, il faut vraiment faire attention à qui il y a autour de toi, tu vois, pour pas se rentrer dedans. Donc en fait, moi, en tout cas, ma conscience de mon environnement, elle a décuplé, quoi.
Ouais.
Je suis rentré chez moi et je me suis tout de suite rendu compte que je marchais plus pareil, quoi. Qu'en fait, avant, je marchais comme un bœuf, tu vois. Et j'étais là, mais putain, c'est dingue! C'est dingue. Et en fait, franchement, je sais plus, là, je te mentirais, mais dans les jours qui ont suivi, je suis allé voir Laurent, donc mon voisin du dessous, et je lui ai dit, putain, mais je suis désolé. En fait, c'était moi. Enfin, évidemment que c'était moi, tu vois. Lui, il le savait très bien, mais moi, je le savais pas, tu vois. Et
du coup, il a réagi comment?
Ben, lui, alors, voilà, il m'a dit, non, mais voilà, il me dit... Ah bah super, il m'a dit, je dis bah ouais, je lui raconte brièvement, je dis bah tu sais, là je reviens, je suis allé méditer pendant 10 jours, là, il me dit ah c'est super ça, je dis ouais, ouais, et bah en fait je me rends compte c'était moi, tu vois, alors du coup bah je rigolais, enfin on a...
Moi je pense que ça m'aurait vraiment touché quand un voisin me dise désolé, en fait je me rends compte que...
Mais je pense, enfin moi en tout cas ça m'a... Enfin, maintenant, tu vois, à chaque fois qu'on se croise, là, tu vois, avant-hier soir, on s'est croisés, il rentre en moto, donc des fois, bah, il se trouve qu'on rentre en même temps, donc on discute, je pense qu'il... En tout cas, je pense qu'il n'a plus du tout de grief contre moi par rapport à ça. Et on est tout à fait en bon terme, quoi. Mais imagine, j'aurais jamais eu ce recul-là. Je me serais entêté dans mon truc à me dire, bah écoute, je suis somnambule. Imagine, j'aurais été passer des tests. Ouais. Le somnambulisme.
T'aurais eu négatif, t'es bien emmerdé.
Ouais, après, non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a plein de moments dans la vie où c'est comme ça, tu sais, où tu t'embarques sur la mauvaise piste. Tu vois, tu cherches un problème là où il n'y a pas de problème, mais tu ne vois pas là où il y a le problème. Du coup, tu te dis, putain, mais en fait, je pense que c'est ça. Et du coup, tu fais tout un tas de démarches. Ça aurait été un truc de fou, quoi.
Grave. Du coup, tu parlais dans les effets que tu avais notés, d'avoir envie de demander pardon, avoir envie de pardonner, d'une appréciation de la bouffe. Ouais. Ça fait vachement penser aux prières chrétiennes, en fait. Je vois que tu as une image de Jésus, même. Ouais, tu as une relation privilégiée avec lui.
J'ai été élevé, on va dire, comme beaucoup de gens, je pense, en France, dans une éducation chrétienne, vaguement. J'ai été au caté, j'ai fait ma communion sans conviction. Puis à 15 ans, peu ou prou, pile poil, je me suis dit, bon, en fait, ça ne m'intéresse plus. Dieu, il est bien sympa, mais il n'a pas empêché certaines choses terribles d'arriver. Du coup, ça ne m'intéresse pas, je me casse. Mais tranquillement, quoi. Alors, ça peut paraître étonnant, parce que justement, cet enseignement, on nous le répète assez, il n'est pas sectaire, il n'est pas religieux.
Vipassana, oui.
Voilà, Vipassana. C'est l'enseignement de Bouddha, mais ce n'est pas du bouddhisme, au sens où il n'y a pas de vénération d'une figure qui serait Bouddha, etc. Ouais. Et paradoxalement, je dirais que ça m'a rapproché d'une certaine manière de Jésus, quoi. Sans tomber dans un truc où ça y est, maintenant je suis... Mais en tout cas, j'ai eu ce moment où je me suis dit, tu vois, exactement ce que tu dis, c'est des notions chrétiennes. En fait, c'est des notions chrétiennes dans lesquelles j'ai grandi, j'ai été élevé, même si... on n'a jamais été à la messe tous les dimanches, on y allait trois fois par an, et puis voilà. Hein. Quand même, j'ai été un peu biberonné aux valeurs chrétiennes, tu vois, le pardon, la générosité, etc. Et là, j'ai comme eu l'impression de les vivre intérieurement. C'est-à-dire de comprendre ce que c'est physiquement, intérieurement, que pardonner, ou être généreux, ou... Tu vois, une certaine forme d'amour, comme tu disais tout à l'heure, une espèce d'amour universel. Quand je suis sorti de mon premier cours, ce que tu décrivais, je ressentais ça, quoi. C'est-à-dire que je voyais les gens dans la rue et j'avais envie qu'ils aillent bien, quoi. Enfin, déjà, je leur souhaitais pas de mal, ce qui, pour un citadin lambda, tu vois, n'est pas forcément évident. Mais je me disais pas, allez, vas-y, souhaite qu'ils aillent bien, c'était là, quoi. Ouais. C'était un espèce de truc qui émanait comme ça. Et je me suis dit, en fait, mais c'est ça. Enfin, tu vois, ce que dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, le pardon, etc. C'est ça, en fait. J'ai eu l'impression de toucher du doigt vraiment ça, de première main, quoi. Et en ça, ça m'a un petit peu rapproché. Alors, je vais pas plus à la messe et je vais pas, tu vois, mais j'ai pu relire un peu les évangiles et puis j'ai pu un peu, tu vois, y trouver d'autres choses, aussi en discutant avec des amis qui sont un peu versés là-dedans, pratiquants ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, d'autres religions, tu vois, par ailleurs, ça peut être aussi des musulmans, mais mon approche de toutes les spiritualités est un peu différente maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ça un peu.
Ouais. Moi j'ai l'impression que ça passe par le vécu aussi pour moi. Du coup, j'ai pas du tout été élevé proche d'une quelconque religion.
Ok.
Mais ça me va très bien de. Enfin, j'apprécie beaucoup Jésus ou d'autres figures en me disant, moi j'ai. Un peu ce que je te disais sur les ouvertures spirituelles, c'est le moment où tu touches à Dieu, entre guillemets, dans une manière informe, quoi. C'est pas forcément personnifié comme pourrait le. Souvent en parler la religion chrétienne par exemple, mais en tout cas tu touches à ce truc dans le ressenti, et après si Jésus est une figure de ça, une façon de le personnifier, de le représenter et de véhiculer ces valeurs là, ça me va très bien en fait d'interagir avec Jésus, tu vois.
Je sais que dans les cours qu'on a le soir à Vipassana, pendant les cours, il y a un moment où il dit ça justement, il parle de différents personnages dont Jésus, mais dont Bouddha et dont d'autres personnes. Et justement, je me suis dit, mais en fait, oui, ces figures-là, finalement, qu'elles existaient ou pas, finalement, peu importe, mais ces personnes-là, ces véhicules des valeurs, des dont on peut s'inspirer, et finalement, peu importe quoi, peu importe ce qu'on met derrière. Et moi, c'est ça qui m'a toujours qui m'a toujours dérangé dans la manière dont était pratiqué le christianisme en France, enfin en tout cas comment moi je l'ai vécu, c'est qu'on nous rebat les oreilles de tout ça, mais je voyais personne le pratiquer.
Ouais.
Je voyais personne le pratiquer. Je voyais des SDF à l'entrée de l'église, je voyais qui faisaient la manche, et pas qu'on leur filait, tu vois, un maximum de thunes, ou je sais pas, tu vois. Je voyais des gens, je sais pas, qui se montraient, tu vois, qui venaient à la messe pour... Alors après, ça, c'est moi qui juge aussi, peut-être, mais en tout cas, je ressentais rien de vrai, tu vois, de sincère, ou très rarement. Chez des gens, tu vois, ça pouvait être des religieux, tu vois, des sœurs, des frères, des prêtres parfois, tu vois, mais pas dans les fidèles. Mais bon, aussi, je pense que ça, ça dépend de quelle communauté on fréquente, ou, etc. Mais moi, c'est ça qui m'a toujours paru bizarre, c'était cette dissonance entre ce qu'on nous dit qu'il faut faire et ce qu'on ouais. fait et ce qu'on voit autour de nous. Et là, je me suis dit, ben ok, ben là, j'ai eu l'impression d'être en adéquation avec, même pour un court instant, tu vois, entre les valeurs qui sont véhiculées dans telle ou telle religion, système de valeurs, etc., et ce que je ressentais profondément.
Ouais,
et
ouais.
ça a vraiment changé quelque chose pour moi. Même si, voilà, ça va peut-être s'estomper. Ouais.
Bon, je pense que en tout cas, le souvenir d'une expérience vécue en général, ouais. c'est un truc.
En tout cas, il y a clairement, enfin, de toute façon, pour Vipassana, je pense que, en ce qui me concerne, il y a clairement un avant et un après, quoi.
Okay.
De manière très claire.
Trop bien.
Ouais.
Bah écoute, Abel, on arrive à la fin de l'épisode.
Ouais, trop bien.
En général, la coutume, c'est d'écrire un truc dans la carte postale, mais là, c'est un carnet.
Okay.
Je sais pas si ça s'applique. Mais
pourquoi pas ?
Peut-être qu'on peut. Tout à l'heure, je pensais à peut-être faire la page de garde dont tu es maître.
Ok.
Et par exemple. Je sais pas si t'as une est-ce que tu vois ça pourrait être un carnet de quoi tu vois, si par exemple c'est un journal intime et que tu voudrais t'y tenir,
ouais.
de se dire je sais pas, par exemple si on se fixe un mois
ouais.
et au bout de 30 pages écrire la page de fin, et du coup il faut arriver jusqu'à la page de fin, quoi.
Ouais, vas-y, je suis hyper chaud.
Trop bien.
Grave. Donc là, j'ai fait la page de garde de mon petit carnet de...
Si tu veux, on peut okay. la faire en direct. Ouais.
T'as un stylo ou je...
J'ai pas appris de stylo, du
Attends,
coup,
bah, je vais en chercher.
Je suis diablement pas préparé.
Oui, parce qu'évidemment, quand on est habitué à chercher des excuses pour créer, il faut le bon stylo, tu Et vois, ouais. sinon ça va pas.
C'est marrant parce qu'autant, j'adhère pas trop à ça. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Seth Godin, qui est plus... Enfin, il a écrit pas mal de livres au final, mais c'est un marketeur, on va dire, principalement. Et en fait, il a une caractéristique qui est assez ouf, c'est qu'il a un blog depuis vraiment, je sais pas, peut-être 10, 15, 20 ans.
Début d'Internet, quoi.
Et il écrit un article par jour, tous les jours, du okay. lundi au dimanche, jamais malade, jamais truc.
Okay.
Et souvent, les gens lui demandent, en fait, mais comment tu fais, ou même, est-ce que tu en écris plusieurs d'avance, ils sont en file d'attente, ils sont publiés automatiquement, est-ce que c'est toi qui les publies, est-ce que tu écris un par jour, comment tu écris le matin le... Et lui, il dit, je vous dirai jamais, en fait. Parce que vous allez vous attarder sur des conneries. Et c'est pas parce que t'as le stylo d'Hemingway que tu vas écrire comme
Exactement.
Lui, tu vois. Et je suis très d'accord avec ça.
Ouais.
Et à la fois, quand du coup, c'était vraiment une pratique et une douleur, le fait de me pousser à écrire tous les jours, je me rappelle que je m'étais acheté un très beau stylo que j'avais payé 40 euros en me disant, au moins, ça sera un élément de plaisir là-dedans. Pas en me disant, j'ai besoin de ça pour y arriver,
ouais,
mais en me disant, je me fais le plaisir et l'honneur de ça. Ouais.
Ah, mais moi, de toute façon, je sais que je suis comme ça. Hein. J'aime bien, là, j'ai un stylo que j'aime bien, il glisse bien.
Ouais. Voilà. Ah oui, ça, c'est important après pour moi, de trouver le truc. Moi, je sais que je suis gaucher, si l'encre n'est pas assez liquide, je sais pas, ça ne marque pas bien sur le papier de la manière dont j'écris. Si elle est trop liquide, je fais baver et il faut que je trouve le bon. Quoi.
Alors... Ce beau carnet appartient à...
C'est un carnet pour quoi, du coup? Tu vas écrire quoi dedans?
Bah attends, il y a titre après.
Ah, ok. Ah oui, parce que c'est guidé, ouais.
Ah oui.
T'as une envie d'exprimer un truc, du coup, dans le carnet?
Ben, non, mais... Enfin, oui, là, j'étais en train de me dire, je vais l'appeler un peu tous les jours.
Ouais.
Tu vois? C'est quelque chose que j'aimerais arriver à développer et je pense qu'il y a, je pense que j'ai beaucoup de choses à tirer de ça, quoi. Donc je pense que je vais l'appeler comme ça.
Start again.
Ah, c'est pas mal aussi.
du coup, c'est.
Start again, c'est plus plus global. Et je me le redis très très souvent. D'ailleurs, je pensais franchement me faire un limite un réveil avec ça.
Ah, ça serait trop drôle. C'est du coup le l'enregistrement des instructions de dans la retraite de méditation. À chaque fois, donc les instructions sont très basiques. Du coup, une fois qu'il les a expliquées pour le début de la journée, il les répète pas forcément à chaque fois, mais à chaque fois qu'on on revient après une pause, il démarre toujours en disant start again.
D'une avec, voix.
avec une voix très gutturale et avec son accent indien.
Start again.
Et ça devient assez. T'es pris, t'es transi par cette voix à chaque fois.
Mais moi, je te jure, c'est vraiment. Je sais qu'il n'y a pas de mantra dans cette technique, mais ça devient une espèce de mantra. Que je peux me répéter, mais de manière vraiment...
Ça convoque, en fait, l'application, le truc qui te demande...
En fait, c'est ce fameux coup de pied au cul, quoi.
Ouais.
Ce mini coup de pied au cul pour s'y mettre, tu vois. Et ça, c'est quand même vachement précieux, je trouve.
Bon, on est de retour après une carte mémoire qui a saturé. Du coup, on va reprendre. On était en train de finir d'écrire sur ce carnet.
Ouais, j'étais en train d'écrire ma page 30.
Donc,
au bout du 30e jour, je lirai Start Again, le couteau, bravo. j'ai pas commencé par bravo quand même. Il y a un peu de chemin à faire. Mais bon, voilà.
Voilà. Après ces 30 jours et cette complétion, on arrive au couteau et bravo quoi.
Bah ouais, bravo. Très important, je pense, de dire bravo quand même.
Bah ouais, je pense que tu sais, il y a une, je sais pas si c'est quelqu'un de connu qui disait ça ou si j'ai juste lu ça, mais ça m'a beaucoup parlé et c'est il y a des années. Je sais plus comment ça a été formulé, mais en gros, veille à célébrer les petites victoires et sois attentif à si jamais tu le fais pas, parce qu'en fait, si tu sais pas célébrer les petites victoires, tu sauras pas célébrer les grandes et tu ressentiras du vide à te dire.
Seras déçu, ouais.
Quand enfin j'aurai écrit ce grand roman, ça va être génial. Eh ben non, en fait, ça sera un jour comme les autres. Et si tu sais pas le célébrer et marquer le coup, ça va être nul. Enfin, tu vas, ouais, vraiment.
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais.
Donc ouais, grave.
Ouais, c'est important.
Bravo.
Bah merci. Et accepter aussi qu'on dise bravo, ça c'est un autre truc. Vraiment accepter quoi. Ça c'est tout un chantier aussi.
Carrément. Eh ben, trop bien. Est-ce que t'as une dernière chose que tu as envie d'ajouter ou pas?
Merci à toi.
Merci beaucoup, Abel Antoine. Et salut, c'est encore moi. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous voulez retrouver la photo de la carte postale, rendez-vous sur rglx.com/train-de-nuit et cliquez sur l'épisode correspondant. Sur cette page, vous trouverez aussi les notes de l'épisode où je liste les liens vers tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Donc si vous pensez que vous avez peut-être raté une référence en écoutant, il y a de grandes chances qu'elle se trouve dans cette liste. rglx.com/train-de-nuit tout attaché. Vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter si vous voulez être au courant des prochains épisodes et de mes projets en tout genre. Et si l'envie vous prend de partager cet épisode avec une connaissance, j'apprécierai grandement. Et moi, je vous dis à la prochaine.